Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir le père Laurent Milan.
Bonjour,
merci
Manuel,
d'être
bonjour
avec
Charles.
Nous.
Bonjour mon père.
Alors, je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous êtes je pense nombreux, le prêtre Laurent Milan est un prêtre catholique français, originaire du Vaucluse, et vous êtes connu pour votre engagement pastoral dynamique et votre rôle de curé de terrain, on vous le dit. Vous êtes né en 77 à Avignon, donc vous êtes vraiment un enfant de là-bas. Vous avez passé toute votre scolarité, vous avez été au collège Joseph Vernet, vous le citez souvent, et aussi à Saint-Joseph. Alors vous êtes arrivé jeune prêtre en 2012, c'est ça ?
En 2012 comme curé.
C'est ça.
À Comment-sur-Durance.
Voilà.
Qui est à 10 km d'Avignon.
Oui, c'est ça, oui, 12 km
voilà.
D'Avignon.
Et depuis juin 2024, vous êtes curé de la paroisse de Notre-Dame de Bon Repos à Montfavet, qui est désormais une commune d'Avignon. Et c'est comme ça que nous avons eu le grand plaisir de faire votre connaissance. Et certains des auditeurs ont peut-être pu avoir vent de votre présence aussi, parce que vous avez fait face à une agression verbale et à des menaces proférées dans le sein de votre église courant mai 2025. Fidèle à votre tempérament, vous ne vous êtes pas laissé emporter et vous avez réussi à transformer quand même cette agression en un événement relativement positif dont, voilà, on espère que c'était un incident simplement déplacé et qu'on n'aura plus à faire face à ce genre d'agression. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que nous sommes réunis. Nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui est assez important. Il nous a semblé nécessaire de vous en parler, qui est d'abord la différence entre la liberté et les libertés. Et donc, pour ceux d'entre vous qui viennent d'arriver, ou pour les plus jeunes, la liberté, c'est véritablement l'aspiration profonde, presque métaphysique, que peut avoir chaque individu dans l'autonomie de l'être. C'est un peu, si vous êtes un juriste, ce qu'on pourrait appeler le jus naturalis, c'est-à-dire l'essence même. Et à l'inverse, le droit positif, ou en tout cas l'application que va donner la liberté en pratique, ça va être les libertés qui vont prendre des formes concrètes, institutionnelles, juridiques, et ça s'intègre dans le monde réel. Alors vous allez avoir la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de circulation, la liberté d'entreprise. Et on se retrouve aujourd'hui dans un monde où véritablement les deux sont un petit peu mis à mal, on l'a vu plus que jamais pendant le Covid. Et on trouvait nécessaire, nous ici, à l'Institut des Libertés, en votre présence, d'évoquer aussi par rapport à certains d'entre nous, à notre foi catholique, dans ce temps civilisationnel qui est le nôtre, qui est peut-être celui d'une fin de civilisation, on ne sait pas, mais en tout cas d'évoquer ce que peuvent être la peur, ce que peuvent être nos intuitions de terrain aussi face à ces pertes de liberté, et comment en tant qu'individu, et peut-être en tant que chrétien pour certains d'entre vous, s'approprier ces terrains-là. Voilà.
Parce que c'est ce qu'il y a d'important à dire ici aussi, c'est qu'aujourd'hui, la liberté et les libertés sont attaquées au nom de notre bien. C'est-à-dire, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on vous met en prison, si j'ose dire, on vous met en taule au moment du Covid, chez vous, mais pour notre bien à tous. Et donc, si vous voulez, cette espèce de... C'est une fois de plus une tentative de la communauté d'empêcher l'individu d'être libre. Et c'est une vieille tentation de tous les pouvoirs, c'est de vous forcer, vous ne pouvez plus être libre, parce que c'est ce que réclame tout le monde, que vous ne soyez plus libre. Et donc c'est ça dont on doit discuter, c'est comment préserver la liberté et les libertés dans un monde, dans le fond, qui aime de moins en moins la liberté, quoi, et les libertés.
Ce n'est pas à l'État ou à la société à nous accorder d'être libres, nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Et c'est lié à notre nature, c'est donné avec notre nature humaine. Et si nous sommes chrétiens, nous pensons que nous sommes créés à l'image de Dieu et que donc cette liberté en nous est quelque chose, est une forme de participation finalement à la liberté de Dieu lui-même. La capacité de choisir et de faire dont on a l'initiative. Et finalement, cette question de la liberté, elle est pour chacun d'entre nous la question d'abord de nous poser qui commande, qui est le maître dans ma vie. Est-ce que je suis l'Antiquité à commencer par découvrir cette notion de liberté de façon négative par rapport à l'esclavage? La liberté, c'est de ne pas être esclave. Voilà, donc c'est d'abord une dimension sociale et politique, et progressivement, et notamment grâce au christianisme, mais avant même le christianisme, il y a, je pense, les stoïciens qui vont découvrir la dimension intérieure de la liberté, et cette dimension intérieure de la liberté va être développée par le christianisme, à savoir que la liberté est d'abord conçue dans l'Antiquité comme, donc extérieurement, au niveau politique, positivement, pour le citoyen, le droit de pouvoir participer au gouvernement de la cité, par distinction de l'esclave qui lui est soumis au maître et qui n'a aucun droit de participation à la vie de la cité et qui donc obéit simplement à la volonté de son maître. Mais déjà, avec les stoïciens, on découvre une certaine forme d'intériorité de cette liberté et je crois vraiment que l'apport du christianisme, ce qui est lié à la foi, c'est-à-dire que on confond souvent, de mon point de vue, la religion et la foi. La religion, c'est une organisation au sens général et
la religion dans sociologique. Le sens église.
Dans le sens organisation humaine, voilà. Sociale, en vue d'un culte public commun à un groupe, à une société, et qui par nature, une religion, je ne parle pas que du christianisme, toute religion est donc une organisation sociale qui va produire des normes, oui. Des normes liturgiques, des normes éthiques, des normes légales, etc. Et finalement, dans l'ordre religieux, ce qu'on vous demande, c'est d'obéir à ces normes.
Oui.
Et il faut, c'est donc ce qu'on appelle une orthopraxie,
voilà.
Le être un bon religieux de ce point de vue-là, c'est obéir aux normes, aux règles. Et donc, on reste au niveau extérieur, on n'est pas au niveau de la conscience. Et puis, il y a une révolution dans l'histoire de l'humanité avec la venue du Christ, c'est que, sans supprimer la religion, il y a tout d'un coup la découverte, la révélation d'un Dieu personnel qui veut rentrer en relation personnelle avec nous. Et ça, c'est la foi. Et cette relation personnelle, elle se joue à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de notre âme et de toute notre personnalité, mais nous sommes établis dans une relation personnelle. Et là, on découvre l'intériorité et pour nous, le choix d'accepter ou de refuser cette rencontre avec le Christ. Et donc là, nous avons la découverte d'une nouvelle liberté qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est une qualité qui nous est donnée par Dieu, de pouvoir choisir. Qui sera développé plus tard avec Saint Augustin, avec la notion de libre arbitre. Voilà, de pouvoir choisir entre le bien ou le mal, et d'orienter notre vie en fonction de cela. Et si l'on est chrétien, d'essayer de l'orienter vers le bien ultime qui est Dieu lui-même.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, tout ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est que il semble que pour chacun d'entre nous, Dieu ait un projet, et que le but de votre vie, c'est d'essayer de trouver quel est ce projet et de le réaliser, et à ce moment-là, vous êtes heureux. Et si vous ne le retrouvez pas, ou si vous ne le cherchez pas, à ce moment-là, vous êtes malheureux comme un caillou. Et donc, il y a aussi une notion très curieuse, c'est que l'acceptation de votre rôle détermine si vous êtes heureux dans votre vie ou pas, quoi.
Si bien que la liberté n'est pas simplement une volonté non contrainte, il y a aussi l'action de l'intelligence pour discerner, réfléchir quel sens je veux donner à ma vie, et donc quand je trouve ce sens, de chercher les moyens pour pouvoir réaliser et accomplir ma vie. Donc la liberté est vraiment une action conjointe de l'intelligence qui essaye de discerner quel est mon bien et de chercher les moyens en vue de l'obtenir et de la volonté qui est donc une absence de contrainte au niveau de ma capacité de choisir et de réaliser cela.
Et ça c'est la liberté intérieure, donc cette espèce de rencontre qui peut se passer ou pas. Et puis dans les systèmes politiques qui sont nés du christianisme, on a fait naître un certain nombre de libertés qui doivent ensuite être respectées, faute de quoi ben c'est très difficile d'avoir la liberté intérieure, parce que c'est difficile d'être, vous n'êtes pas libre, quoi, finalement, physiquement.
Mais d'une certaine façon, si on voulait faire en raccourci peut-être définition de la liberté, on pourrait dire qu'ultimement, c'est la souveraineté individuelle, à savoir que c'est une participation de la souveraineté de Dieu, en quelque sorte, au niveau individuel, mais nous sommes en société, nous ne sommes pas des électrons libres, nous ne sommes pas des monades, et donc nous sommes des êtres en relation avec d'autres, et donc il faut organiser la société avec la rencontre en quelque sorte et la coexistence de toutes nos libertés individuelles, et en vue de cela, eh bien, l'homme étant doté de raison va organiser au niveau politique par le droit nos différentes libertés pour qu'elles puissent respecter les uns et les autres.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans l'espèce d'acceptation de la modernité qui est la nôtre, nous arrivons dans une période où nous aurions décidé, ou en tout cas nos dirigeants aimeraient nous expliquer, que la liberté serait désormais la recherche de licence ? qu'il faudrait quelque part une vie absolument sans libre arbitre, presque, puisque ça serait dans une acceptation de toutes les licences, d'une licence de trop manger, de trop coucher, de trop... Je ne me fais pas du tout pharisienne en disant ça, je dis juste qu'on a l'impression que c'est dans la recherche de presque une acceptation qu'on n'aurait plus de libre arbitre en rien. Tout serait possible, tout serait du domaine des possibles, et donc en réalité même, on n'a plus de libre arbitre à avoir, donc on a cette espèce d'énorme licence de tout.
Mais finalement, la licence est un abus et un détournement de la vraie liberté, parce qu'il me semble que la vraie liberté, c'est la capacité d'initiative dans le bien, dans le cadre du bien. Et donc finalement, quand on sort du bien, quand on fait le choix du mal, on s'abîme nous-mêmes ou on abîme le prochain. Et la liberté, elle n'est pas faite pour abîmer. Elle est au contraire une force de vie, une force vitale pour vivre individuellement et en société heureux. Il y a un mauvais usage possible de la liberté.
Voilà. La liberté, quelque part, si j'ose dire, suppose la vertu.
Exactement. Ça, c'est vraiment la sagesse aussi des anciens. Et pour ma part, étant disciple de saint Thomas d'Aquin, qui reprend lui-même Aristote, un auteur de l'Antiquité, eh bien, de voir que l'ennemi, il faut d'abord voir quels sont les ennemis des libertés. Encore une fois, en revenant à cette question, qui commande en moi? Si je me fais commander par mes passions, mes émotions, par ma gourmandise, par je ne sais pas quoi, ma volupté ou je ne sais pas quoi, au final, je deviens esclave, à l'intérieur de moi-même, de mes propres passions. Et les vertus sont donc ces qualités au niveau de notre âme et particulièrement au niveau de la volonté, cette volonté qui va gérer nos émotions ou nos passions sensibles, parmi lesquelles, il faut bien l'avouer, l'une des plus dangereuses et qui je crois est une ennemie de la liberté et des libertés, qui est la peur. La peur est une des principales passions de l'âme qui paralyse l'action et nous rend aveugles en quelque sorte et impuissants par rapport à ce que nous devrions faire.
Alors, parlez-nous de la peur, parce que j'ai l'impression quand même que les gouvernements qui s'attachent à supprimer nos libertés utilisent beaucoup la peur comme un moyen de nous empêcher d'être libres. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, saint Thomas, de la peur? Il a dû en parler, de la peur.
Me revient nécessairement cette parole du pape saint Jean-Paul II au début de son pontificat, « N'ayez pas peur ».
Voilà.
Et ça, c'est un vrai programme de vie. Nous avons bien vu comment la capacité au niveau des structures sociales et de l'État, en utilisant et en jouant sur les peurs, de la contrainte que nous avons reçue récemment au niveau du Covid, de nous enfermer chez nous, de nous empêcher de nous priver
parents,
des libertés publiques fondamentales.
D'aller voir nos grands-parents, d'aller voir nos parents, c'était effrayant.
Exactement.
Et même liberté de culte.
Oui, liberté de culte, et on n'a pas eu de messe de Pâques.
Exactement. Est-ce qu'il y a un remède à la peur? Eh bien, l'opposé de la peur, c'est la confiance. Et la confiance, je pense, nous devons l'avoir d'abord aussi. J'aime beaucoup rappeler l'étymologie de la notion de fidélité, foi et confiance sont étymologiquement dans le latin la même réalité. Et donc, avoir confiance et avoir foi. Aussi. Avoir foi en Dieu, peut-être, ça sera sans doute une force, et je me suis appuyé personnellement là-dessus pendant le Covid, pour essayer de résister aux dérives, ce que j'estimais être des dérives au niveau social et politique, qui voulaient nous priver de la liberté, et de se dire que ben, il y a des vérités supérieures à simplement ce que nous impose le pouvoir, et que ce qui était en jeu, au-delà des libertés, en nous supprimant les libertés politique, les libertés publiques fondamentales, ce qu'on voulait mettre en jeu, c'est notre liberté individuelle qui est liée à notre nature et qui est un don de Dieu et qui est inaliénable, inviolable. Donc il y avait une attaque, c'était en voulant nous priver de nos libertés civiques, on attaquait, une réalité anthropologique qui était le fait que nous sommes des êtres libres.
Nous sommes nés libres.
Nous sommes nés libres et pour être libres. Pour être libres. Et Dieu veut qu'on aille à lui, qu'on retourne à lui librement, par des actes libres.
Et ça, c'est un élément très important. Mais alors, ça nous amène ces libertés qui ont été protégées par le droit. Ça voulait dire que le droit, au départ, dans la civilisation, avait une espèce d'origine religieuse. Et puis maintenant, on est passé à un droit qui est devenu l'expression d'une majorité. Alors là aussi, ça peut toucher à nos libertés.
Je pense qu'on peut rapprocher ça aussi, mais je parle sous le contrôle d'une avocate et d'une spécialiste du droit. Mais dans l'histoire du droit, il y a une révolution. La conception antique, et si je prends celle d'Aristote reprise par saint Thomas d'Aquin, c'est que, en quelque sorte, le droit, il est d'abord l'expression de l'intelligence. C'est une œuvre de la raison édictée par l'autorité légitime en vue du bien commun. Et nous sommes passés à l'époque moderne, je crois depuis Suarez en fait, au niveau de l'intelligence, c'est-à-dire avec la capacité de pouvoir justifier pourquoi on demande ça dans une loi, de donner, comprendre le sens d'une loi, pourquoi elle est bonne. Nous sommes passés de l'intelligence à la volonté générale, la volonté qui s'impose à d'autres volontés. Et je crois que c'est une défaillance, il faut revenir, une bonne loi, elle doit être fondée en intelligence et on doit être capable de la comprendre et de la justifier rationnellement.
Les libéraux, vous direz, et c'était le propre des propos dans La Société ouverte et des différents ouvrages des libéraux, c'est que quelque part, une bonne loi doit venir aussi du droit coutumier. Il doit y avoir normalement une évolution de la société qui fait qu'on n'a presque pas à expliquer cette loi. En réalité, ce qui difforme une société, c'est quand vous arrivez avec des normes extérieures que vous lui imposez. Et c'est un peu ça qu'on a. Et c'est dans une certaine mesure ce qu'on a trouvé aussi au moment du mariage pour tous. Moi, je suis toujours assez à l'aise avec ce concept parce qu'en tant que libérale, je ne comprends pas même pourquoi l'État nous marie. Pour moi, il appartient au culte, à l'Église catholique, aux musulmans, à la synagogue de marier leurs fidèles conformément à votre foi respective, à vos fois respectives. Et l'État devrait être un système déclaratif où l'on arrive avec nos enfants pour vis-à-vis des successions ou vis-à-vis de la filiation. Mais Et je pense que quand l'État se charge d'investir nos vies privées, comme il l'a un peu fait par ce biais-là ou pour d'autres. Et quand je dis ça, je suis très à l'aise vis-à-vis des communautés homosexuelles avec qui j'ai pas du tout de... C'est même pas la question. Mais
moi, je connais deux exemples de mariages du même sexe et qui sont très heureux.
Beaucoup plus heureux que des couples hétérosexuels, c'est vraiment pas la question.
L'État n'est pas compétent en matière de sentiments.
Non, en plus.
C'est une question du domaine de compétence et d'expertise. Nos sentiments, quels qu'ils soient, ne relèvent pas de la compétence de l'État. Mais si l'État s'intéresse au mariage, c'est en raison de l'utilité sociale, en quelque sorte, à l'époque où le couple et la famille étant la cellule de base de la société, on peut concevoir qu'il y a un rôle de l'État pour enregistrer ces familles et les protéger juridiquement, enfin leur donner de reconnaître l'union stable des couples. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites sur la question du mariage, nous n'avons plus la même définition entre la définition civile du mariage et la définition religieuse, puisque la définition religieuse chrétienne du mariage, c'est l'union entre un homme et une femme sur le motif de l'amour, qui choisissent librement d'unir leur vie dans un destin commun en vue de fonder un foyer.
Or,
d'avoir des enfants, ou être ouvert à la vie, si Dieu leur fait la grâce d'avoir des enfants. Mais cette définition-là n'est plus, et que c'est un engagement durable. Et ce n'est plus la définition aujourd'hui, même juridiquement, notamment avec le mariage pour tous. Le contenu n'est plus le même entre ce qu'est le mariage du point de vue chrétien et ce qu'est devenu le mariage aujourd'hui du point de vue civil. Donc la question, effectivement, peut se poser de savoir si nous n'avons plus le même contenu au mot mariage, au concept de mariage, sauf qu'en France, légalement, par exemple, je n'ai pas le droit de marier des couples avant la mairie.
Oui, bien sûr.
Sinon, là, c'est une...
Oui, voilà. Oui. Non, mais même ça ne se fait pas. Je sais que vous ne pouvez pas les enregistrer dans vos registres religieux tant que vous n'avez
pas
le papier.
Je dois avoir l'attestation du mariage civil.
Et voilà.
Par contre, j'ai fait un mariage aux États-Unis il y a quelques années, à New York, et là, j'étais officier d'état civil.
Ah,
j'ai
oui.
rempli les papiers et il n'y a pas eu de mariage autre que le mariage religieux où j'étais l'officier d'état civil qui a...
apostillé.
J'ai signé tout un tas de papiers et il n'y a pas eu d'autre mariage que le mariage religieux, reconnu par l'État.
Mais on a quand même tous conscience que depuis mai 68, l'État s'est énormément impliqué dans la définition de nos vies. Et c'est-à-dire il a pratiquement débordé du cadre normatif qui était le sien. Et on peut se poser la question de véritablement cette astreinte qui pèse sur nos libertés désormais, puisqu'il sort de son gange, il sort du terrain qui était le sien.
Ben, bien sûr.
Mais c'est comme tout le temps. On dit quelquefois, l'État fait plus mal ce que les autres dans le domaine privé feraient mieux. Et il y a une propension à vouloir s'étendre à tous les domaines qui sont hors de sa compétence. Et hors de. L'État devrait, comment dirais-je, réduire son activité au niveau de ses compétences exclusives, qui sont les fonctions régaliennes, comme vous le rappelez souvent ici. Et pour le reste, on prélève l'impôt vu que l'État ait les moyens de réaliser ses fonctions régaliennes. Et pour le reste, il faut laisser l'initiative personnelle et surtout ne pas chercher à entraver ou voire carrément à empêcher les initiatives personnelles.
Et je le vois très bien ça, c'est que dans un domaine qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a une différence essentielle entre la morale qui ne peut être qu'individuelle et la loi qui s'applique collectivement. Or, aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous imposer des morales collectives. En termes de manière, pour la terre, France, la terre, ou je sais pas. Et ça n'existe, la morale collective, ça n'existe pas. La morale ne peut être qu'individuelle, puisque vous avez une relation unique. Donc, cette histoire de, je vais vous dire ce qu'est la morale collective, ça me met dans des états de fureur qui sont considérables, parce qu'une morale ne peut être qu'individuelle.
Puis je pense qu'il y a aussi une autre dimension, c'est que le droit, sans doute, doit viser les actes extérieurs posés, alors que la morale, elle est au niveau d'abord de l'intentionnalité, elle est d'abord au niveau intérieur. Quand l'État, par le droit, essaie de contrôler vos pensées et vos intentions...
Et c'est pas acceptable.
Ah, ça sent le totalitarisme, là, ça pue un peu.
Hein. Ça pue un peu, c'est tout à fait exact. Et... comment il s'appelle, ce bon Abélard avait expliqué ça très bien, c'était à la fin du 11e, je crois, 11e siècle, il avait dit, c'est une grande différence qui est née à cette époque-là, il y a une grande différence entre le péché et le crime. Le péché, ça relève de l'individu et de la demande de pardon et peut-être de changer sa vie. Le crime, ça relève de l'État. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de réussir de refusionner ces deux idées que, dans le fond... les péchés et les crimes, c'est pareil, quoi. C'est que la puissance publique a le droit de juger les péchés. Et ça me laisse pantois.
Mais peut-être parce que la notion de péché se réfère à une réalité transcendante, pour nous chrétiens, Dieu, mais que l'État moderne s'est en quelque sorte divinisé et a voulu diviniser ses valeurs et est devenu un absolu.
C'est vrai ça.
Et c'est peut-être aussi une des raisons, c'est la dimension d'avoir transformé l'État moderne, de l'avoir divinisé, fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir d'opinion, en quelque sorte, vous ne pouvez plus discuter, une loi établie, vous ne pouvez plus rien faire parce que ça relève d'un outrage, de lèse-majesté, un crime,
C'est-à-dire que disputer l'État quand il s'occupe de morale, c'est en quelque sorte commettre un crime.
C'est un blasphème. Vous remarquerez que la catégorie du blasphème qui est religieuse, aujourd'hui, on peut l'appliquer au niveau de la contestation, de la discussion de l'État.
Et le voit en Grande-Bretagne, oui. Où vous pouvez voir arriver désormais la police, toc toc toc, à 6h30 du matin, où, monsieur, vous avez fait quand même un tweet très controversé hier à 18h30. C'est quand même pas normal. Vous vous dites, enfin, d'abord, est-ce qu'il ressort des compétences de l'État d'évaluer la bêtise d'un tweet qui n'est quand même globalement... Bon, qu'une bêtise qu'on écrit au café, vous voyez. Bon. Ouais. Et par ailleurs, moi je pense que aussi ça pousse énormément les gens vers plus d'anxiété, donc plus de peur. Parce que qu'est-ce que l'anxiété ? On parle toujours d'anxiété sociale, mais l'anxiété c'est de la peur. Et donc plus un État grossit comme ça, plus il va nous juger sur les normes, sur ainsi de suite, plus en réalité on fabrique nos peurs. C'est véritablement la fabrique de nos peurs.
On a peur d'être puni.
On a peur d'être puni, on a peur de la maîtresse, bien sûr, on a ça en nous. C'est l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, même si on n'a rien fait de mal, quand on nous regarde avec un regard suspicieux, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore ? On a tout ça en nous.
Tu sais qui a dit, vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien fait de mal, qui est la phrase utilisée par tous les gars qui sont partisans de plus de pouvoir de l'État, ben c'est Goebbels. Donc il était évident que ceux qui ne trouvaient rien de mal à Hitler n'avaient rien à craindre du parti nazi. Donc
et quand on veut, on trouvera toujours quelque chose à vous reprocher et une bonne raison de vous contrôler et de vous sanctionner.
Et la sanction se passe d'ailleurs très souvent par vous n'avez plus voix au chapitre. Vous êtes comment on appelait ça quand on mettait les chrétiens en dehors de l'Église. Vous savez, c'était là. Vous êtes excommunication. Aujourd'hui, okay. vous voyez toute une série d'intellectuels dans notre monde qui sont excommuniés par l'État, comme autrefois l'Église excommuniait les gars qui pensaient pas bien. Quoi, donc.
Alors moi, je voudrais vous poser une question, parce que je parlais d'anxiété, et beaucoup de jeunes parlent, je me mets de la place, j'ai deux enfants, comme vous savez, deux grandes filles, mais quand même, il y a cette espèce d'anxiété climatique. Quelle est pour vous la position de l'Église et votre position sur la liberté d'un chrétien ou d'un humain qui se veut libre et avec son libre arbitre face à cette anxiété climatique? Qu'est-ce qu'on doit faire face à, soi-disant, urgence du climat, nous en tant qu'individus libres?
Alors, je pense que le Groenland, hein, ça veut dire terre verte au départ, et aujourd'hui ce sont des masses infinies de glace. Je ne sais pas à l'époque quand s'est fait ce changement. Il me semble qu'il n'y avait pas d'usine humaine, qu'il n'y avait pas de pollution humaine.
1250, parce qu'il y a eu un optimum dans les atmosphériques. Les optimums atmosphériques, c'est quand il fait chaud. Hein. La civilisation se développe quand il fait chaud. Quand il fait froid, c'est l'horreur. Donc là, il y a eu un optimum. Je crois qu'il a fait son plus haut vers 1250, c'est-à-dire sous Saint-Louis. Puis après ça, ça a commencé à se dégrader. Puis il y a eu donc. On peut dire que la très belle période du Moyen-Âge, vous savez, on a fait Notre-Dame, la Sainte-Chapelle et tous ces trucs-là, s'est passé pendant une période de réchauffement. Puis ensuite, il y a eu le refroidissement, la Grande Peste, la guerre de Cent Ans. Et normalement, la croissance économique aurait dû commencer vers 1250, 1300. Et puis, on a perdu la moitié de la population de l'Europe pour des raisons. Et à ce moment-là, il a fallu, ça nous a retardé de deux ou trois siècles.
On s'est pris une grosse
place noire. Donc ces variations ne dépendent pas de l'homme, pour l'essentiel. Par contre, l'état d'esprit général, c'est bien sûr le respect de la création. Nous sommes faits, la création est un ensemble. Il y a le monde visible et invisible, comme nous disons dans « Je crois en Dieu ». Dans le monde invisible, c'est celui des esprits, ce qu'on appelle les anges. Et il y a en nous une dimension invisible qui s'appelle notre âme spirituelle, et dont il faut prendre soin également. Et puis il y a le monde visible. Et dans ce monde visible, il y a les vivants, parmi lesquels les animaux, ne les oublions pas, et l'ensemble de la création. Et cette création, nous devons, et je préfère employer le terme de création plutôt que de nature. Parce que création nous rappelle que nous sommes tous des êtres dépendants du point de vue de l'existence. Oui. Nous ne sommes pas auto-créés. Et donc, et en même temps, ça montre que si nous avons une même source qui est Dieu, il y a un lien de solidarité dans l'ensemble des êtres qui composent la création, qui nous unit par l'origine commune et la finalité commune, quelles que soient nos natures différentes.
Et que nous devons nous garder de toute pensée prométhéenne aussi, qui aurait tendance à
changer la nature humaine.
À changer la nature humaine, à mettre des embryons dans des utérus de femmes et ce genre de choses. C'est-à-dire s'imaginer au-dessus des autres, dans l'acte de création.
Se prendre pour Dieu.
Ça a toujours été le péché de la gauche. Et quelqu'un comme Chantal Delsol, qui est une très bonne chrétienne, dit toujours que, vous savez, vous avez eu deux totalitarismes au siècle dernier, le communisme et le nazisme. Et que le nazisme a été condamné donc, de façon absolument irrattrapable, et que le communisme ne l'a jamais été, parce que derrière le communisme, il y avait des tentations de créer un homme nouveau. Alors que le totalitarisme nazi, non, c'était les hommes allemands qui étaient les meilleurs, et il n'y avait rien à créer de meilleur que ça, quoi, je veux dire. Et donc, que l'homme, quand il se prend pour Dieu, à ce moment-là, et qu'il fasse des horreurs, c'est toujours pardonné par la gauche. C'est-à-dire que la gauche n'a jamais défini l'endroit où sa pensée doit s'arrêter. Dans cette espèce de tentative de manipulation. Alors que la droite, on sait très bien où s'arrêter maintenant, on nous l'a dit, on sait très bien où c'est. Donc la gauche se permet toujours de se prendre pour Dieu, alors que la droite a décidé il y a un petit moment d'arrêter, quoi. C'était pas une bonne idée.
Je pense que ça correspond aussi à des structures mentales. Pour schématiser, même si c'est pas mon domaine de compétence, mais j'ai la liberté individuelle de pouvoir le dire, la gauche est héritière de Platon et de l'idéalisme, alors que la pensée de droite est héritière d'Aristote et du réalisme.
C'est vrai.
Donc ça dépend si on part dans une abstraction qui ne correspond pas au réel et qui aboutit à de l'idéologie, c'est-à-dire une pensée qui est fermée sur elle-même, qui ne se vérifie pas dans le réel, ou si l'on part du réel et que notre intelligence est finalement d'abord une capacité contemplative à recevoir le réel pour en être informé. Donc il y a deux plis mentaux, je ne sais pas comment on veut dire, qui au niveau individuel et qui vont donner au niveau collectif des tendances idéologiques, plutôt de gauche idéaliste idéologique et plutôt de droite réaliste.
Et on est comme ça. J'ai l'impression qu'on est comme ça.
Il y a des structures mentales qui après vont devenir des systèmes.
J'ai l'impression qu'on est de droite ou qu'on est de gauche.
Je ne sais pas. Je pense que tu as des écosystèmes qui font naître des affinités. Et je pense aussi que l'individu, quand il est jeune, est extrêmement perméable et qu'il veut être accepté par ses pairs. Et que la pression sociale aujourd'hui, par exemple dans certaines universités, quand tu es dans une fac de sociologie, je pense qu'il doit être très difficile d'être un jeune homme déjà blanc de droite. En plus,
je sais pas s'il y en a.
Donc, tu te trouves avec une pression aussi qui fait que quelquefois, peut-être un peu par lâcheté, mais surtout parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi, j'ai mis beaucoup de temps en tant qu'être humain à avoir une vision politique, tout simplement parce que je trouvais qu'à 18 ans, j'avais déjà plein de choses à apprendre, plein de choses qui me tombaient sur la figure, et que ma foi, c'était déjà difficile de comprendre comment passer du statut de jeune fille à femme, et que les questions politiques, c'était compliqué, et que c'était pas pour tout de suite, et qu'on verrait bien plus tard.
Mais en lien avec notre thème de la liberté, quand vous avez une pensée qui est fermée sur elle-même, qui est plus idéologique, vous ne pouvez pas tolérer une autre pensée.
Oui.
Et on est jusqu'à l'extrême de vouloir éliminer celui qui ne pense pas comme vous. Alors que si vous avez une pensée plus réaliste, vous êtes capable, vous voyez bien la variété du réel, vous êtes capable de pouvoir discuter et d'accepter la tolérance au sens strict, c'est-à-dire de supporter une autre opinion que la vôtre sans chercher à éliminer celui qui ne pense pas comme vous.
C'est-à-dire que l'homme de gauche, quand on n'est pas d'accord avec lui, voulait dire qu'on a tendance à être son ennemi. Tandis que nous, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est pas pour ça qu'on le déteste.
Il pense pas comme nous, voilà. Tant qu'il m'empêche pas, moi, de penser ce que je veux, oui, il peut penser ce qu'il veut. Voilà, si on schématisait un peu les différences de structure psychologique.
On voit ça, je ne sais pas si vous avez suivi, vous n'avez pas dû voir, mais certains auteurs, par exemple, comme Laurent Oberton ou le dessinateur Marceau, avaient monté une revue qui s'appelle La Furia. Et leurs subventions ont été ôtées parce qu'ils ne pensent pas assez bien pour le pouvoir central. Et ça, c'est quand même une atteinte aux libertés. Alors, on peut revenir à la source en disant, est-ce normal que nous soyons dans un système où la presse est subventionnée?
Là, non. C'est pas même dans les subventions, mais c'est qu'ils avaient,
C'est les NNPP.
Ils avaient le droit d'envoyer leur revue sans que ça coûte de la poste. Bon.
Oui, mais c'est voilà, le système est ainsi fait qu'en fait, on donne des prébendes, on les retire, et c'est comme si on te fermait ton commerce, en réalité.
Mais c'est comme...
C'est comme si tu étais un bar bistrot et qu'on ne te donnait pas l'autorisation d'avoir une terrasse. Bon, bah, tu vas
ou
pas faire de limonade. Voilà. Bon.
De l'alcool, ça.
La laïcité, au sens général, c'est une neutralité de l'État vis-à-vis de certaines valeurs, vis-à-vis de, et c'est très étonnant, donc dans le domaine religieux, mais aussi dans les autres. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, je crois clairement, un État qui n'est pas neutre. Qui n'est pas laïque au sens du terme positif.
Il y a une religion à l'intérieur de cet État qui veut détruire les autres religions.
Exactement. Quand on dit que la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, je dis d'accord, on prend le pari, alors séparons l'État de la franc-maçonnerie. Voilà. Alors, allons jusqu'au bout de la laïcité.
Et pour ça, c'est pas difficile à faire. Il faut faire ce qu'ils ont fait en Angleterre. C'est-à-dire, toutes les autorités publiques qui ont accès à l'argent public, donc les impôts, ont le droit d'être franc-maçon, il n'y a aucun problème, mais elles doivent le déclarer pour que le public soit au courant.
Oui.
Ça me paraît je vois pas pourquoi une activité devrait rester secrète. Ça m'ennuie.
Et nous savons tout le poids que pèse la franc-maçonnerie dans le domaine de la justice, avec tous ces juges qui sont affiliés à ce genre de société et qui ont le droit, encore une fois, moi, ils peuvent être franc-maçons, ça ne me gêne absolument pas. Mais que ce soit clair et que quand ils prennent des décisions en tant que franc-maçons et, j'allais dire, en solidarité avec leurs frères, que ce soit clair. Moi, quand on doit passer devant un tribunal, on doit pouvoir être jugé équitablement. Et pareil dans les autres services, même au niveau de la police, on sait que dans un certain nombre de secteurs comme la police et aussi dans l'armée, il y a de forts réseaux francs-maçons. Ils ont le droit, encore une fois, mais que les choses soient claires et qu'on ne nous fasse pas croire que c'est ça la neutralité.
Mais alors, est-ce que tout ça, en réalité, n'alimente pas aussi notre peur vis-à-vis du monde? Parce qu'on se dit, mon Dieu, à quelle sauce je vais être mangé? Comment réussir en tant qu'individu, en tant que chrétien, à vivre dans cette France de 2026 qui arrive sans avoir les jetons?
Alors, moi je peux répondre que pour moi en tant que chrétien, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je ne sais pas. Mais en tant que chrétien, nous avons une perspective qui est au-delà de cette vie terrestre. C'est-à-dire que vous pourrez tuer mon corps, mais vous n'aurez pas mon âme. Et dans tous les cas, la vraie justice se fera dans la rencontre avec le Seigneur. Il y a une dimension eschatologique. Je veux dire, le temps de ce monde va passer. Et donc, nous sommes toujours dans une espérance. Vous savez, la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est attendre un bienfait qui est raisonnablement possible. Si je révise mes examens, mes cours, etc., je peux espérer réussir mon examen, avoir une bonne note. Tandis que l'espérance, elle porte sur une réalité ultime qui est Dieu lui-même, qui sera cause de mon bonheur éternel. Et en attendant ce bonheur éternel, de recevoir de lui toutes les grâces dont j'ai besoin ici et maintenant. Donc, le chrétien peut vivre et doit vivre dans l'espérance de savoir que le Seigneur ne nous a pas simplement créés et laissés dans le vide, mais qu'il accompagne notre vie, qu'il accompagne notre liberté. Et d'ailleurs, pour le chrétien, ma liberté n'est pas autonomie vis-à-vis de Dieu. Elle est accueil au niveau de ma conscience, de cette présence agissante de Dieu, et il y a comme une coopération en nous avec le Seigneur pour diriger notre vie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence essentielle. Donc l'espérance, c'est une des vertus théologales d'ailleurs.
Exactement, avec la foi et la charité.
La foi et la charité, donc c'est-à-dire, c'est, pour répondre à ma fille, donc, il faut vivre dans l'espérance, mais de temps en temps, on perd un peu espoir, non ?
Le mal peut sembler gagner sur la terre. Mais si nous sommes chrétiens, nous savons que le mal ne gagne pas. Et si on va plus loin, celui qui est à la source du mal ou ceux qui sont les instruments du mal, que sont les démons. Pour voir, il y a une action, quand on est chrétien, on pense qu'il y a aussi un combat invisible qui se joue, non seulement dans notre vie personnelle, le combat spirituel, individuel, mais aussi au niveau collectif. Et il y a aussi un combat invisible entre les anges de lumière et les mauvais anges. Et il y a une influence des mauvais anges aussi sur la vie individuelle et sur la vie sociale.
Et c'est ça qui est très difficile, parce que dans le fond, vous croyez au diable. Alors que...
Si tu crois au bien, t'es obligé de croire au diable.
Bien sûr, parce que tu peux pas...
Je crois d'abord en Dieu.
Mais si on croit en Dieu,
de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est qu'on a aujourd'hui, c'est quand vous interrogez les gens, il y en a plus beaucoup qui croient en Dieu, mais ils croient tous au diable. Ce qui est quand même un des paradoxes de notre société.
C'est pour ça qu'ils ont les jetons aussi.
C'est peut-être un biais cognitif, parce qu'on voit d'abord ce qui... Et si on a un vaste mur blanc et qu'il y a une petite tache noire, on verra d'abord la tache noire. Alors que l'ensemble du mur est blanc. Et si vous regardez le monde, l'ensemble de l'univers est beau.
Est beau.
Certes, il peut être rempli de cochonneries, mais l'ensemble de l'univers est beau. Et c'est d'ailleurs un argument en apologétique que la contemplation de la beauté du monde nous fait poser la question de savoir, mais enfin, qui est l'auteur, qui est l'artiste qui est derrière ce chef-d'œuvre ?
Oui, c'est tout à fait exact. Vous savez, c'est la chanson de Louis Armstrong que j'aime tellement. Où il chante « Mais comme ce monde est beau, comme les fleurs sont belles », etc.
« It's a wonderful world ».«
It's a wonderful world ». For it's such a wonderful world. C'est admirable, cette chanson, pour moi. J'aimerais qu'on la mette le jour de mon enterrement, parce que c'est une merveille, cette chanson. Donc.
Pas à l'église, hein, vous recevrez en dehors de l'église.
Non, même dans l'église, c'est un chant religieux, en fait. C'est un chant religieux de la communauté noire aux États-Unis, et c'est superbe. Et c'est superbe, parce que justement, c'est un cri d'admiration devant la beauté de l'univers, quoi. C'est ça que je trouve au poil. Donc, pour revenir à, les forces du mal, puisqu'elles existent, cherchent à nous faire vivre dans la peur.
Ah oui, ça clairement. Je dirais c'est de la nourriture. Le mal se nourrit de nos peurs, en quelque sorte, parce que la peur laisse une emprise au mal sur nous. La peur ouvre notre cœur à une action extérieure maléfique.
Oui. Et donc, tous ces gens au gouvernement qui essayent désespérément de nous faire peur pour qu'on se reste obéissant, eux, ils sont obéissants à des forces un peu obscures, quoi.
De toute façon, vous savez qu'on soit au niveau du pouvoir qui essaye d'utiliser nos peurs, ou plutôt de générer des peurs chez nous, ou que ce soit au niveau du diable, il y a toujours l'idée de vouloir nous contrôler en nous privant de liberté, alors qu'au contraire, le bon Dieu nous veut libres. Mais il y a aussi notre liberté, il y a une autre réalité qu'il faut voir, c'est que notre liberté, elle est aussi affectée intérieurement par ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire une blessure sur notre nature humaine qui fait que notre liberté, qui au départ est créée par Dieu pour choisir spontanément et exclusivement le bien, notre liberté, elle doit combattre parce qu'elle est aussi tiraillée, attirée par le mal.
Oui, bien sûr.
D'où le combat spirituel. Et c'est une blessure, une fêlure en nous. Et cette blessure, elle peut être guérie en quelque sorte par la grâce. C'est-à-dire que l'homme est capable par le péché de s'abîmer, mais il n'est pas capable de se réparer. Et Dieu seul peut nous réparer. Et c'est la grâce de Dieu qui vient nous réparer de l'intérieur. Mais certaines blessures que nous pouvons porter, car la liberté ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, certaines blessures, nous pourrons les porter toute notre vie sans jamais en être libérés. Nous en sommes libérés qu'au ciel. L'apôtre saint Paul lui-même supplie le Seigneur à plusieurs reprises de lui enlever les chardes dans la chair. Qu'est-ce que c'est? C'est un langage symbolique, on ne va pas développer ici. Mais la réponse qui compte, c'est la réponse de Dieu. Ma grâce te suffit. Donc, saint Paul n'a jamais été libéré de cette faiblesse, cette blessure en lui, on ne sait pas quoi, qui n'était pas physique, hein, certainement, loin de là, et pas que physique. Et par contre, il a vécu avec la grâce de Dieu.
C'est-à-dire que...
C'est cette métaphore où on marche sur la plage et il y a des pas, et il dit, mais Seigneur, pourquoi ne m'as-tu porté? Il dit, mais si tu n'y as pas de pas, c'est parce que je te portais dans ce moment difficile.
Eh oui, j'ai pas vu tes traces à côté de moi.
Oui,
ben oui, puisque c'est moi qui te portais.
Voilà.
Avec une seule trace, c'est celle ensemble et conjointe de moi et du Seigneur ensemble.
C'est une très belle formule, ça. Alors maintenant, essayons de... Ça, c'est la philosophie, c'est ce que nous croyons, c'est comme ça que, en pensant que le monde fonctionne. Et ça, c'est, si j'ose dire, notre foi. Bon. Et puis, à l'extérieur de cette foi, il y a des organisations qui sont chargées d'apporter. Et ce que disait Bernanos, c'était que l'Église catholique était un vaisseau qui avait sa proue dans la merde et son gréement dans les étoiles. Donc, il y a... Quand on regarde l'Église, on se dit c'est une merveille, mais en même temps, pas terrible, quoi. C'est très humain aussi. Donc, c'est très difficile, j'imagine, pour un prêtre de réfléchir à cette question, ou même d'en parler, mais comment l'Église est-elle tirée du rôle de continuer à amener cette parole, quoi. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que, à votre avis, ils auraient pu mieux faire, mais enfin, je sais pas.
Non, il va pas le pauvre, tu vas pas lui demander de juger.
Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils en ont bien conscience de ce rôle?
Non, moi, je pense qu'il faut d'abord faire des distinctions. Pour mieux avoir une vision plus unifiée après. Distinguer pour unir. La distinction me semble capitale entre religion, spiritualité et foi. La religion et le christianisme comportent ces trois éléments, sauf qu'ils ne sont pas au même niveau. La religion et la spiritualité sont au service de la foi. La religion, encore une fois, c'est d'abord une organisation humaine, avec des prescriptions et sociales, en vue de fonctionner ensemble. Et c'est un mouvement... ascendant, c'est-à-dire ça part de l'effort de l'homme pour essayer de monter vers le divin. Bon. Et c'est toujours collectif, et avec des normes. Après, vous avez la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord une expérience intérieure. Et la spiritualité n'est pas réservée au christianisme, ou je dirais même l'artiste fait une expérience spirituelle.
Oui, je pense.
D'où lui vient son inspiration pour produire une œuvre, etc. C'est déjà une activité spirituelle. Comme les activités intellectuelles sont aussi des activités spirituelles.
Mais comme je dis, entre un artiste et un entrepreneur, il n'y a pas des masses de différence. Il crée quelque chose qui n'existait pas, et puis d'un seul coup, ça existe. Donc c'est le don divin de la création qui
les
peut apparaître.
Les muses l'ont inspiré. Et donc la spiritualité, c'est d'abord une ouverture de l'esprit sur l'invisible. Et puis vous avez la foi qui, elle, est vraiment dans le christianisme, d'abord vient de l'initiative de Dieu lui-même, d'une révélation, et donc qui est un mouvement descendant. C'est la venue de Dieu dans notre vie humaine, c'est le mystère de l'incarnation. Hein. Mmh. Jésus-Christ, vrai Dieu, le Verbe éternel qui se fait chair, qui se fait notre frère en humanité. Et donc là, nous avons donc un mouvement, j'allais dire quasiment contraire à celui du religieux. La religion est un mouvement ascendant de l'homme qui essaie de monter vers le divin, alors que le christianisme, dans sa foi, est d'abord la venue de Dieu, un mouvement descendant, la venue de Dieu dans notre humanité. Et pour établir une relation entre lui et nous, une alliance. Et cette alliance, elle n'est possible que par l'initiative libre de Dieu et la réponse libre de l'homme. Et donc, dans l'Église, toutes les dimensions religieuses, c'est-à-dire de culte, de rite, de prescription, spirituelles, c'est-à-dire aussi de pratiques spirituelles, de dévotion, sont ordonnées, sont finalisées à la foi, c'est-à-dire à la relation personnelle avec Dieu, qui est une rencontre. personnel entre Dieu qui vient nous visiter et nous qui répondons à sa venue et nous le laissons habiter en nous.
C'est des paroles très fortes, tout ça. Donc on revient à Bernanos. Il y avait quelques trucs dans la coque qui ne sont pas terribles, mais dans l'ensemble, ils ont plutôt bien fait leur boulot sur les dominants qu'il y
a. Non, le problème, c'est les dominantes. C'est-à-dire quand la religion prend le dessus sur la... Si vous voulez, quand il y a une autonomisation, si la religion n'est plus au service, si les rites, les prescriptions, les lois de l'Église... Voilà, sinon on est dans l'orthopraxie. Et on est une religion païenne comme les autres. De même pour la spiritualité. Vous avez des spiritualités même non religieuses qui sont tout à fait estimables.
La méditation.
On voit la méditation, mais là, c'est pas non plus le spécifique du christianisme.
Pas du tout.
Le spécifique du christianisme, c'est la foi, la relation personnelle avec Dieu qui vient à notre rencontre et habiter notre âme. Et donc, dans une relation, une alliance fondée sur l'amour et donc libre. Voilà. Et donc, tout le reste doit être ordonné à ça, à la foi, à la relation personnelle. Donc, pas d'autonomie. Quand la religion est autonome ou quand la spiritualité même est autonome, on n'est plus dans le christianisme, si ça n'est plus ordonné à la foi, à la relation personnelle.
Est-ce que vous pensez, comme certains, comme peuvent le penser des gens qui sont des laïcs ou des athées, en tous les cas, comme Michel Onfray, que notre civilisation est terminée et avec elle mourra le christianisme ou le...
Alors, avant de répondre directement, je voudrais faire un petit détour parce que très souvent, je l'entends critiquer le libéralisme comme la cause de tous les malheurs de notre modernité. Oui. Je voudrais lui répondre que la cause des malheurs de notre modernité, c'est précisément ce à quoi il adhère lui, à savoir un matérialisme athée. C'est le matérialisme athée qui a transformé les individus en marchandises. Et tout en marchandises. Si nous étions dans un monde avec une spiritualité, avec une dimension religieuse, on n'instrumentalise pas le prochain. Et on a une vision, on sait que tout n'est pas matière, que tout n'est pas simplement terrestre, et qu'on devra rendre des comptes à Dieu. Et donc ça change tout dans les comportements. Donc la racine des maux de la modernité, ce n'est pas le libéralisme, c'est le matérialisme athée.
Voilà.
Et pour revenir à votre question...
La question, c'était, est-ce que vous pensez, comme certains, donc, que l'Occident et donc la chrétienté seraient finis aujourd'hui ?
Ah, pas du tout. Il se passe quelque chose d'extraordinaire que personne n'avait prévu. Un renouveau. Le bon Dieu, alors si on est chrétien, on voit ça comme un cadeau du bon Dieu, qui envoie partout, dans nos églises en Occident, où tout commençait à s'effondrer, et en France en particulier, des jeunes qui se posent des questions, qui sont un peu comme des déshérités, des amnésiques en quelque sorte, qui n'ont pas reçu quelque chose, qui n'ont pas reçu cette formation, cette identité chrétienne en héritage, et qui à un moment donné, notamment en confrontation avec l'islam, se posent la question, mais qui je suis, d'où je viens suis. Moi je suis pas musulman, moi je suis pas... Donc qu'est-ce que ça
Quelle
veut dire
Quelle est mon identité
Quelle est mon identité Ils regardent un peu l'histoire de France, ils voient que c'est l'Église catholique qui a façonné la France avec les rois, et à partir de là, ils se posent la question, et surtout par rapport à ce climat général de peur dont on a parlé, ils découvrent qu'il y a dans le christianisme, des valeurs, et au-delà des valeurs, c'est la foi, une rencontre personnelle, des valeurs qui donnent du sens et de la force pour vivre.
Et donc vous cessez d'avoir peur.
Alors c'est la première des choses, n'ayez pas peur. Mais ça n'est possible que si on a l'espérance, c'est-à-dire si on sait qu'il y a autre chose que simplement les mécanismes humains.
Ce que vous dites finalement, c'était l'essentiel de ce que j'ai appris quand j'avais 10-12 ans, etc. Mais... Plus personne ne le dit. Le discours que vous tenez en ce moment, vous devez vous sentir un peu seul quand vous le tenez, parce que aujourd'hui on est dans une dimension horizontale, si vous voulez, si on n'est pas socialiste, on n'est pas chrétien, ou je sais pas quelle bêtise. Et donc, cette espèce d'extraordinaire civilisation qui est passée par saint Augustin, puis ensuite saint Thomas, elle a été remplacée par une philosophie complètement imbécile qui est le marxisme. Et tout le monde est opposé à tout le monde se déteste et c'est la lutte entre tout le monde, à la place d'être une civilisation dans laquelle vous respectez l'autre parce qu'il lui aussi c'est une créature divine. Donc il me semble qu'il y a eu une espèce de rupture dans le milieu du 19e et que c'est ça dont on est en train de crever, non ?
Écoutez, grâce à votre initiative de m'inviter aujourd'hui, déjà ça fait un écho.
Oui.
Et je pense que ça pourra aussi peut-être libérer la parole à un certain nombre de prêtres ou de chrétiens de façon plus générale pour témoigner de ça. Malheureusement, dans sa dimension humaine, l'Église suit également des modes. Voilà.
Bien sûr.
La pression sociale fait que il y a aussi une imprégnation de l'actualité et des courants dominants. On le voit avec la question de l'écologie, de l'immigration, etc. L'Église actuellement est un peu à la remorque de toutes les idéologies Mais sauf que l'Église, elle vise l'éternité.
Et puis c'est un temps long. C'est-à-dire que j'imagine bien, dans des structures un peu académiques, comme ça, le temps qu'un message arrive et remonte, c'est-à-dire un message est à la base, et le temps qu'il remonte jusqu'à la tête, ça peut prendre un temps, sauf si on a quelqu'un d'extrêmement touché par la grâce, qui lui-même a compris le moment, a compris cette chute du mur de Berlin.
Il était passé par le communisme.
Par le communisme en tant que Polonais. Il savait aussi
et
la nécessité.
Nazisme. Et le nazisme.
De conserver une identité. Deux, hein. Voilà.
Donc, moi, je trouve cette émission extraordinairement intéressante parce que ce que vous avez dit, dans le fond, c'est la base de ce qui a créé la chrétienté, mais la France aussi, pendant 10 siècles, ou je sais pas quoi, cette espèce de rencontre avec individuel dans la foi, bon. Et cet individualisme. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que l'individualisme, c'est tout sauf l'égoïsme.
Ah non,
c'est-à-dire qu'il faut faire une différence essentielle. Vous avez une relation, vous êtes unique, vous serez toujours unique, il n'y en aura jamais un autre comme vous, vous êtes le seul qui avait votre DNA, et c'est pas pour ça que vous êtes égoïste, au contraire.
Parce que l'être humain est une personne, à l'image de Dieu, qui est un être personnel, et donc un être de relation.
Voilà.
Et donc, il n'y a pas d'opposition, nous fonctionnons avec une mentalité ou bien, alors qu'il faut fonctionner avec un « et », la conjonction de coordination « et », « et ». Et donc, ça n'est pas simplement moi ou les autres, mais la personne humaine est un être à la fois individuel et toujours en « et », « et », toujours en relation avec les autres.
Et avec Dieu.
Et avec Dieu, bien sûr, fondamentalement et premièrement.
Donc, si vous voulez, c'est ce que vous dites, dans le fond, c'est vraiment pas à la mode. Hein.
Non, et si vous me permettrez, je voudrais vous donner une illustration de la question de la liberté individuelle et de l'apport du christianisme. Quand on prépare au mariage, on reçoit les fiancés et je leur demande de façon un peu taquine, pourquoi voulez-vous vous marier? Alors évidemment, parce qu'on s'aime.
Oui,
très bien. Je dis, mais ça veut dire que vous êtes chrétien déjà. Parce que universellement, en dehors du christianisme, le mariage, c'est pas d'abord une histoire d'amour. C'est un contrat entre deux familles, non pas entre deux individus, mais entre deux familles, qui donnent d'un côté une fille, de l'autre un garçon, en vue de mettre un patrimoine en commun et de la transmission de ce patrimoine par un héritier. Donc vous voyez, il n'y a pas une histoire d'amour et c'est pas libre. Et c'est le christianisme qui a inventé, en contemplant la relation du Christ avec l'Église, qui a inventé un nouveau mariage, il faut le dire, c'est pas une conception ordinaire et générale du mariage. Ce nouveau mariage qui est donc conçu d'abord comme un choix personnel entre un homme et une femme en vue d'unir leur vie pour un destin commun.
Et c'est un mariage d'amour.
Et c'est un mariage d'amour. Mais donc, ça veut dire la condition, c'est la liberté. Et ce que l'Église me demande de vérifier en premier, comme condition nécessaire pour que le mariage à l'Église, en tant que sacrement, soit valide, c'est que les fiancés soient libres.
Oui, et vous avez dit un mot important, je le rappelle, le mariage est un sacrement. Hein ? On rappelle les sacrements.
Mais qui suppose une réalité naturelle. Qui suppose une réalité naturelle de l'amour humain, et pas simplement de s'aimer, mais de s'engager. Dans une vie commune, ce qui peut être un mariage d'ordre naturel. L'Église reconnaît la valeur du mariage naturel.
Mmh. Oui, bien sûr.
Et la voix de la femme compte autant que la voix de l'homme. Là aussi, il faut casser un peu des préjugés et des idées fausses. C'est l'Église qui a fait avancer la dignité de la femme en lui reconnaissant un droit égal à partir du sacrement du mariage, en disant que si la femme ne veut pas, le mariage n'est pas valide. On ne peut pas, même si on obligeait cette femme à se marier, du point de vue de la théologie catholique, le sacrement ne serait pas valide. Donc la voix de la femme, son choix libre, a autant de valeur et est reconnue par le droit canon comme nécessaire pour que ce mariage soit valide. Donc vous voyez, les féministes devraient remercier l'Église de toute la promotion de la dignité de la femme.
Et de la liberté.
Et de la liberté. Il y a deux grands apports minimums qu'on devrait pouvoir reconnaître. C'est de l'apport du christianisme à l'histoire de l'humanité. C'est la valeur individuelle, puisque c'est en tant que personne que je peux être établi en relation directe avec le Seigneur, à l'intérieur d'une communauté familiale qui s'appelle l'Église. Donc la valeur individuelle, la question de la liberté, donc individuel, et la question de la dignité de la femme, qui, dans sa différence, reste, par son origine commune et par sa destinée commune avec l'homme, dans sa différence, partage avec l'homme une dignité que l'Église a toujours protégée et promue.
Écoutez, ça me paraît très bien tout ça. Donc, le père, Milan donc officie à Montfavet. Donc, il donne des homélies, j'en ai assisté à quelques-unes le dimanche, qui sont très bien.
Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas
à faire quelques kilomètres d'ailleurs, pour aller l'écouter.
D'ailleurs, je dois dire que j'ai été très spontanément admirative cet été de constater combien vous aviez des gens qui faisaient une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de voiture pour venir le dimanche spécifiquement là.
Et
c'est vrai qu'il y avait une ferveur, beaucoup de jeunes, et une ferveur toute particulière. Alors, bon, évidemment, toute chose relative par ailleurs, parce qu'on est dans une paroisse de campagne, enfin, quand même d'agglomération. Dans une très belle église. Mais je veux dire, c'est pas Notre-Dame de Paris non plus, mais toute chose égale par ailleurs, j'ai trouvé que c'était très dynamique. Voilà.
C'était très dynamique.
Et c'est tout à votre. Sous votre initiative et votre tempérament qui tient ça d'une main de fer.
Si vous me permettez de conclure en disant que. On a besoin de modèles pour incarner cette liberté.
Bien sûr.
Et je voudrais, je pense, au nom de milliers de personnes, remercier Charles pour ce que
c'est
vous
vrai.
Représentez pour nous. Parce qu'à un moment donné, il y a les idées, les concepts, mais ils doivent être incarnés par des personnes. Et je crois que pour nous, vous incarnez vraiment ce qu'est un homme libre. Et on a envie de vous suivre et d'être comme vous.
Ça me donne envie de pleurer, tiens.
Non. Alors, il ne faut pas le faire pleurer. On a un problème dans la famille. Papa a un frère qui est formidable, qui s'appelle Jean-Louis, que j'embrasse, qui est mon oncle parrain, comme on dit dans le Nord. Et Jean-Louis est terrible parce que dès qu'on lui dit un truc, il se met à pleurer. Mais de bonheur, hein. De bonheur.
Mais vous savez, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fasse des compliments, si je veux dire. Ils sont là. Ils prennent des coups et tout, et bon, ils font leur boulot, quoi. Ils sont là pour protéger la famille, pour protéger la cité et tout. Et dans notre civilisation, il n'y a plus de représentation du héros. J'ai écrit un papier il y a quelques années qui s'appelait « Nous sommes tous en mal d'admiration ». Il n'y a plus personne à admirer. Et je trouve que ça, c'est une extraordinaire faiblesse de cette civilisation.
J'ai été
élevé dans le culte des héros.
Il n'y a plus personne à admirer, il n'y a plus personne d'admirable. Et aussi, on représente le mâle blanc, et tu en parlais avec Mathieu Bock-Côté la semaine dernière, comme un crétin.
Oui.
Donc tant que notre civilisation moderne, tant que cette modernité aussi continuera à représenter l'homme blanc cisgenre comme un crétin patenté, ça donne pas
comme
aussi...
Comme le beauf.
Oui, c'est ça, l'idiot de service.
Celui qui comprend pas comment fonctionne la machine, celui qui arrive pas à brancher un grille-pain, celui dans les publicités, quand on montre l'homme blanc, parce que sinon il n'est pas montré.
Revenons aux grands héros de notre histoire de France et aux saints.
Bien sûr.
Nous avons dans les héros de l'histoire et dans les saints des modèles d'inspiration.
Pour les petits garçons aujourd'hui qui veulent se construire. Oui, bien sûr.
Donc je nous invite d'un point de vue pratique à nous informer sur ces grandes figures, ces grands héros de l'histoire de France qui ont participé à construire la France et à faire la gloire de la France, qui suppose d'abord d'aimer notre pays, ce qui est quand même un minimum, et ceux qui l'ont servi, et aussi les saints. Qui nous donne des exemples. Les saints sont tellement variés, il y a des milliers de saints canonisés, puis tous ceux qui ne le sont pas. Mais pour tous les saints canonisés par l'Église, nous pouvons constater leur variété d'origine sociale, de caractère, etc. C'est pour nous montrer qu'ils peuvent être des exemples pour chacun d'entre nous qui correspond à notre propre caractère. On sera attiré par tel saint et pas par un autre, etc. Mmh. Parce que tel saint va nous parler, parce que ça résonne en nous.
C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à la sainteté.
Ah, ça c'est certain.
Il n'y a pas un type qui est né qui est né en étant saint, quoi.
Exactement. La sainteté n'est pas réservée à une élite. C'est la vocation de tout chrétien. Et c'est la forme de l'héroïsme chrétien en ce monde, de rester fidèle dans la foi, l'espérance et la charité, même quand nous sommes minoritaires, même quand nous ne sommes pas compris, et pourquoi pas, même quand nous serons persécutés.
Oh, je ne le souhaite pas quand même.
Mais on l'est, c'est vrai, ça commence.
Voilà. Mais c'était un très très beau mot de la fin. Je vous remercie infiniment. Donc le père Laurent Milan qui était avec nous aujourd'hui de la paroisse de Montfavet dans le Vaucluse, d'avoir participé pendant une petite heure, mais presque une grande heure, à cet échange sur le thème des libertés. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On en fera d'autres. Dans ces cas-là, on serait ravis de le faire. En tout état de cause, on en fera d'autres, je pense.
On en fera d'autres de toute façon, parce que même si ça ne vous plaît pas, vous y aurez.
Ce sera comme Lisbonne, tu sais. Vous ne vouliez pas Maastricht,
on vous le passera autrement.
Et vous l'aurez quand même. Tu sais, quand tu finissais pas tes épinards, tu l'avais au repas d'après.
On aura le père. Le père Milan, de temps en temps, pour votre bien.
C'est bien fait pour vous. Vous avez intérêt à aimer ça.
Merci à tous les deux infiniment.
Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir.